Le prophète Élie est un des personnages les plus énergiques, les plus violents même de l'histoire d'Israël. Son zèle dévorant, sa manière spectaculaire de s'adresser au peuple et lui communiquer son message, lui ont valu d'être appelé le prophète de feu. Souvenons-nous qu'il était avec Moïse et Jésus sur la montagne de la Transfiguration. Aujourd'hui, je voudrais me rappeler avec vous d'un épisode de sa vie qui l'a sans doute profondément marqué et qui constitue pour nous également une grande leçon. En ce temps-là, Israël était plongé dans l'idolâtrie. Les Israélites avaient été séduits et impressionnés par le culte que l'on rendait à Baal, une idole cananéenne. Le premier livre des Rois, chapitre 18, nous décrit une scène assez hallucinante où le prophète sur le mont Carmel lance un défi à tous les prêtres de Baal devant le peuple entier. Il démontre par le feu et le sang que Baal n'est qu'une misérable statue sans force, aveugle, muette et sourde, et que le seul Dieu véritable, vivant, présent, c'est Yahvé. Malgré cette journée spectaculaire, le peuple ne semble pas s'être repenti. Alors nous voyons le prophète sombrer dans une crise de découragement, une sorte de dépression nerveuse. Il fuit le monde, craint la colère de ses ennemis. Il se réfugie dans la montagne et là, dans le massif lugubre et impressionnant du Sinaï, il trouve une caverne pour s'abriter. C'est dans cette caverne, pareille à Caïn, au fond de sa tombe, qu'Élie entendit la parole de l'Éternel. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée des prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Deux choses me frappent dans ce récit. Nous nous trouvons tout d'abord devant un prophète de Dieu qui est avant tout un homme, dans toute sa faiblesse. Un homme découragé, déprimé et, comme nous le verrons, victime des apparences. Il s'est réfugié dans une antre de la terre, il n'a plus le goût de vivre. Mais Dieu est là, même dans les plus sombres cavernes du désespoir humain. Et son intervention auprès d'Élie est un mouvement de pitié et d'amour. Que fais-tu ici, Élie ? Mes amis, il faut que nous comprenions que Dieu est là aussi, plein de compassion quand tout semble sombre et sans espoir. Voyez comment Élie se confie. Il laisse parler son cœur même s'il est plein d'amertume. « Venez à moi, a dit Jésus, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Souvenez-vous aussi de cette douce parole de l'apôtre Paul, pleine d'expérience et de certitude. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Il y a encore d'autres cavernes que Dieu visite pour y tirer les hommes qui s'y sont cachés. La caverne du pécheur qui pense y enfouir les actes dont il a honte. Que fais-tu ici? C'est un rappel au repentir, une offre de pardon avant que ne vienne ce jour où seront révélées toutes les actions secrètes des hommes. Il visite aussi la sombre caverne du doute, l'atelier de la révolte, et sa voix incite au calme, à l'équilibre, à la confiance. Aucune caverne n'est saine, aucune n'est un refuge. C'est une prison où l'atmosphère favorise l'infection. C'est déjà le tombeau pour une âme qui se meurt. C'est pourquoi Dieu nous dit comme au prophète, « Sors et tiens-toi devant l'Éternel. » Il y a dans l'attitude d'Élie quelque chose d'attachant. Dans sa faiblesse, je le sens proche de moi. Je suis presque reconnaissant de le voir défaillir. Ce n'est pas un surhomme blindé contre toutes les épreuves. C'est un homme dans toute la faiblesse inhérente à sa nature, un homme qui a besoin de son Dieu. J'éprouve le même sentiment à l'égard de Job, qui crie son incompréhension à la face de Dieu. C'est pour cela que l'exemple de ces hommes nous est précieux. Nous pouvons nous retrouver, nous reconnaître en eux, comprendre nos besoins et nos problèmes en considérant les leurs. Ainsi comme Élie, ne sommes-nous pas déjà entrés dans une de ces sombres cavernes? Le découragement nous y a conduits, le doute peut-être, tous les pourquoi demeuraient sans réponse, tous les à quoi bon tous les efforts que je fais, cela en vaut-il vraiment la peine? Les résultats ne sont pas apparents, et si je me trompais, si j'étais en train de perdre mon temps à croire des fadaises? C'est alors que la voix de Dieu nous dit « Que votre cœur ne se trouble pas ». Ayant entrepris de faire le bien, ne nous laissons pas gagner par le découragement. Si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au moment opportun les fruits de notre persévérance. C'est l'apôtre Paul qui vient de nous dire cela. Qu'importent les apparences? Depuis le commencement, elles ont plutôt été contre les chrétiens, mais l'Évangile avec ses promesses subsiste toujours. L'important, c'est de demeurer actif au service de Dieu, avec la confiance inébranlable que rien de ce qui se fait pour lui ne sera perdu. Ce sont autant de semailles qui produiront leurs fruits en temps voulu. Élie se croyait seul devant Dieu en face d'un peuple totalement voué à l'idolâtrie. Ce qu'il ne savait pas, et que Dieu lui révéla plus tard, c'est que 7000 hommes en Israël étaient restés fidèles au Dieu vivant. 7000 qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Comme Élie dut se sentir dépité, honteux, humilié, de s'être ainsi laissé aller à un désespoir aussi total. Il s'était laissé abattre par les apparences. Considérons aussi comment Dieu s'est adressé à l'impétueux prophète. Contre toute attente, l'Éternel n'était pas dans la tempête mugissante, ni dans le tremblement de terre terrifiant, ni dans le feu dévastateur, mais dans le murmure doux et léger. Trois points sont ici à méditer. Ceci nous montre tout d'abord que nous devons apprendre à écouter pour percevoir la présence et la volonté de Dieu. Il nous arrive trop souvent de ne concevoir Dieu qu'à travers l'exceptionnel, le formidable, le Dieu de l'Apocalypse en quelque sorte. C'est méconnaître sa nature. En réalité, il est toujours présent dans le lys des champs et les oiseaux du ciel. La tempête, le feu, ce sont des parenthèses, mais le rire d'un enfant, la joie d'une amitié, la paix de la nuit, la douceur du foyer sont autant de murmures doux et légers qui parlent tous les jours au cœur attentif et le remplissent de reconnaissance, d'équilibre et de force. La tempête, le feu, le tremblement de terre ont en quelque sorte été les avant-coureurs, les signes annonciateurs de la parole de Dieu. Dans le feu de chaque épreuve, dans chaque tempête qui secoue une vie, il y a une intention de Dieu, un message de sa part. Quel est ce message? C'est à l'âme d'attendre en silence et de demeurer lucide et attentive dans cette calme assurance que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je me souviens d'une scène du film d'Ingmar Bergman, intitulée La Source. La dernière scène du film, un homme retrouve sa fille assassinée dans une prairie. Muet de douleur, il soulève dans ses bras le corps sans vie de sa petite fille et soudain se met à crier au ciel son incompréhension et son déchirement. Le ciel ne répond rien. Le silence est oppressant. Puis il perçoit un murmure, le murmure de l'eau. Il regarde à ses pieds et à l'endroit où la tête chérie avait reposé, une source venait de poindre et l'eau limpide s'écoulait dans l'herbe du champ. Le célèbre cinéaste suédois avait, par ce symbolisme frappant, donné une merveilleuse leçon d'espoir et de confiance. La réponse de Dieu n'est pas toujours celle que nous attendons, mais elle vient à qui est attentif et confiant. Elle met alors un baume ineffable sur le cœur que la tempête a meurtri. Il arrive parfois aussi que, ne voulant pas reconnaître la présence de Dieu dans les murmures doux et légers de l'existence quotidienne, Dieu doive nous rappeler à la raison par le feu purificateur de l'épreuve, précisément, par la tempête de sa colère. Ainsi, si nous ne le discernons pas lorsque nous sommes en bonne santé et à travers cette bénédiction, viendra-t-il à nous dans la maladie? ou si nous sommes dans l'abondance, à l'abri du besoin et ingrats, devra-t-il nous retirer ce qu'il nous a donné pour nous réveiller aux valeurs essentielles de la vie? Je vous laisse aujourd'hui sur deux paroles tirées de l'Écriture. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur.